Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La première ministre Elisabeth Borne estime qu'une trêve humanitaire immédiate et durable est absolument nécessaire à Gaza, vous l'entendrez. Une conférence humanitaire pour aider la population civile dans la bande de Gaza se tient ce jeudi à Paris. L'Élysée indique que la France réfléchit à accueillir des blessés et des malades palestiniens et souligne que cet accueil pourrait avoir lieu au niveau européen. La situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 expriment leur soutien à des pauses et couloirs humanitaires. L'armée israélienne dit être au cœur de la ville de Gaza où les combats se sont intensifiés ces derniers jours, un mois après l'attaque du Hamas perpétrée en Israël. La hausse des violences en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre dernier, nous y reviendrons avec Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Le projet de loi immigration du gouvernement, débattu depuis lundi au Sénat, la droite sénatoriale a adopté la suppression de l'aide médicale d'État réservée aux sans-papiers. Plusieurs autres dispositions du texte sont également vivement dénoncées par la Ligue des droits de l'homme. Son président, maître Patrick Baudouin, sera l'un de nos invités. La première ministre française s'est exprimée depuis l'Assemblée nationale sur la guerre entre Israël et le Hamas, Elisabeth Borne, qui estime qu'une trêve humanitaire immédiate et durable est absolument nécessaire à Gaza. La première ministre.
Depuis les terribles attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël, la situation dans la région est extrêmement préoccupante. Israël a le droit d'assurer la sécurité de son territoire. Et cela doit se faire dans le respect du droit international. Et nous devons impérativement éviter l'escalade et l'embrasement dans la région. Et je le dis sans ambiguïté, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est dramatique. Le bilan humain est extrêmement lourd, avec de nombreuses victimes civiles, notamment des femmes et des enfants. Les populations palestiniennes ne doivent pas payer pour les crimes du Hamas. Elles doivent être protégées de toute urgence. Cette urgence, la France n'a cessé de la réaffirmer et nous avons condamné très clairement les frappes contre les personnels humanitaires et les sites de l'ONU. Comme nous l'avons dit, le droit international humanitaire impose des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution. La protection des civils est à la fois un impératif moral et une obligation internationale. Une trêve humanitaire immédiate et durable est absolument nécessaire. Elle doit pouvoir mener à un cessez-le-feu. Monsieur le Président Gontard, la France est mobilisée pour la paix. À l'initiative du Président de la République, une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza se tiendra demain à Paris. J'ajoute que nous suivons de très près la situation de nos ressortissants dans la bande de Gaza. Nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de revenir en France. Plus de 100 ont pu quitter Gaza depuis vendredi dernier. De plus, nous restons mobilisés pour obtenir une libération immédiate et sans condition des otages. Monsieur le Président Gontard, face à ce conflit, la seule issue possible est une solution politique avec deux États. C'est la position invariable de la France. C'est le sens de l'initiative pour la paix et la sécurité pour tous, portée par le président de la République autour de trois piliers, la sécurité avec une lutte implacable contre le terrorisme, le soutien humanitaire avec une réponse internationale rapide et forte face à l'urgence de Gaza et la détermination à relancer un processus politique permettant de garantir la sécurité d'Israël et la création d'un État pour les populations palestiniennes. Face à la situation au Proche-Orient, la France ne ménage aucun effort pour éviter l'embrasement, pour protéger les civils et pour offrir une perspective de paix. Je vous remercie.
La première ministre Elisabeth Borne. Une conférence humanitaire pour aider la population civile dans la bande de Gaza aura donc lieu ce jeudi à Paris. L'Élysée indique que la France réfléchit à accueillir des blessés et des malades palestiniens et souligne que cet accueil pourrait avoir lieu au niveau européen. Il s'agit de mobiliser tous les bailleurs pour répondre aux besoins des Gazaouis. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 expriment leur soutien à des pauses et couloirs humanitaires humanitaire à Gaza. Cela pour permettre l'acheminement urgent d'aide sur le territoire palestinien et l'évacuation des civils menacés par les combats. L'armée israélienne dit être au cœur de la ville de Gaza où les combats se sont intensifiés ces derniers jours, un mois après l'attaque du Hamas perpétrée en Israël. Depuis, plus de 10 500 personnes, en majorité des civils, sont morts dans les bombardements israéliens lancés dans la bande de Gaza. La Cisjordanie occupée connaît une hausse des violences depuis le 7 octobre dernier. Les colons israéliens multiplient les exactions contre les Palestiniens de ce territoire occupé. Nous y revenons avec Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a recensé en Cisjordanie 147 décès de Palestiniens, dont 44 enfants, donc 147 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne. Et 8 Palestiniens, dont un enfant, qui ont été tués par des colons israéliens. Donc, il y a un contexte de tension exacerbée en Cisjordanie, des attaques de colons très régulières, l'armée qui ouvre le feu aussi de manière très rapide sur des Palestiniens. Les Palestiniens sont aussi soumis à des déplacements de population. L'ONU compte plus de 900 Palestiniens qui ont été déplacés, donc dans ce contexte marqué par des restrictions d'accès de certaines zones pour les Palestiniens de Cisjordanie.
Les violences en Cisjordanie qui s'étaient accentuées depuis le début de cette année également.
Oui, les violences en Cisjordanie connaissaient une augmentation depuis le début de l'année. Avant le 7 octobre, il y avait déjà plus de 200 Palestiniens de Cisjordanie qui avaient été tués par l'armée israélienne ou par des colons. C'est un chiffre vraiment très important par rapport aux années précédentes. C'est dû au fait que, parallèlement, les violences perpétrées par les colons israéliens se sont exacerbées. On a notamment vu ça dans la localité de Ouara, dans laquelle il y avait eu plusieurs attaques de colons qui avaient incendié des habitations, des véhicules, etc. Plusieurs centaines de colons qui avaient fait des descentes punitives dans cette localité de Ouara. Il y a aussi la localité de Toulkarem qui est visée par ces violences de colons qui ont fait plusieurs morts très, très récemment. Donc c'est un contexte. Alors bien sûr, le nombre de morts reste très faible par rapport à ce qu'on peut voir actuellement dans la bande de Gaza, mais ça représente tout de même une augmentation très très sensible par rapport aux années précédentes. C'est lié d'ailleurs à l'intensification de la colonisation israélienne de la Cisjordanie. Aujourd'hui, on compte plus de 700 000 colons en Cisjordanie, Jérusalem-Est comprise, pour 3,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie.
Cette colonisation qui est illégale au regard du droit international.
Tout à fait, la colonisation est illégale au regard du droit international. Les conventions de Genève sont très claires. Il est interdit d'amener sa propre population sur le territoire d'un pays occupé. Il s'agit d'une violation grave du droit international humanitaire et donc d'un crime de guerre. Pour nous, la solution au conflit israélo-palestinien doit obligatoirement passer par un règlement de cette question de la colonisation. Ce qui veut dire donc un arrêt de la colonisation et éventuellement d'ailleurs le démantèlement de colonies de Cisjordanie. C'est d'ailleurs un des principaux éléments qui a fait dérailler les accords d'Oslo à la fin des années 90, le fait que parallèlement la colonisation continuait et qu'il était donc très difficile de revenir à la table des négociations pour l'autorité palestinienne.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se déroule, comment se crée une colonie et ce qu'adviennent les Palestiniens qui vivaient à cet endroit?
Oui, les colonies, généralement, on assiste à la création d'avant-postes. Ça va être quelques maisons en préfabriquées, parfois qui vont être installées sur une colline, avec des colons, généralement les plus militants de ces colons, qui vont s'installer, qui vont par exemple développer des activités de bergerie, etc., d'élevage, qui vont fortifier cette position. Ces avant-postes, généralement à la base illégaux, finissent par être légalisés par le gouvernement israélien, puis deviennent des villages à part entière. Et donc les colonies se développent ainsi dans la zone C de la Cisjordanie. La zone C, ça correspond à 70% de la Cisjordanie actuelle. Et donc les Palestiniens qui vivent aux abords des colonies sont très simplement chassés de leurs terres. C'est soit l'armée qui va décider de les chasser de leur terre en disant qu'il s'agit désormais de zones militaires ou de réserves naturelles protégées. Sinon, ce sont directement les colons qui vont harceler les Palestiniens au quotidien afin qu'ils quittent leur terre. C'est un processus comme ça qui se fait de manière assez lente. Voilà, on voit depuis la colonisation, c'est quelque chose qui a commencé lors de l'occupation il y a maintenant plus de 50 ans. Mais c'est un processus qui s'est intensifié avec des déplacements de population de milliers de personnes. Comme je disais, donc au moins 900 personnes depuis le 7 octobre. Et on arrive finalement à ce que la population palestinienne de Cisjordanie soit concentrée dans les zones B et C de Cisjordanie, qui correspondent à environ 30% de la Cisjordanie. Donc ce sont vraiment des zones très, très réduites.
Pierre Mottin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale appellent à une grande marche dimanche à Paris contre l'antisémitisme. Le Parti socialiste qui se joindra à la marche déplore la présence du Rassemblement national qu'il juge illégitime. Plus d'un millier d'actes antisémites sont recensés depuis un mois et le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Les responsables musulmans font également état d'une libération de la parole raciste. Le projet de loi immigration du gouvernement est débattu depuis lundi au Sénat. Il arrivera à l'Assemblée nationale courant décembre. La droite sénatoriale a adopté la suppression de l'aide médicale d'État réservée aux sans-papiers pour la transformer en aide médicale d'urgence. Plusieurs autres dispositions du texte sont vivement dénoncées par des associations de défense des droits de l'homme, à l'image de la Ligue des droits de l'homme, son président, Maître Patrick Baudouin.
De toute façon, c'est une loi qui sera, comme toutes les précédentes, hein, je rappelle qu'il y en a eu plus d'une vingtaine en 40 ans, enfin de lois majeures, hein, sans compter d'autres plus mineures. Elles n'ont jamais inversé le phénomène, qui est un phénomène migratoire irréversible, tout simplement parce qu'à l'échelle planétaire, il y a les changements climatiques, la sécheresse, les guerres, les régimes autoritaires, toute une série de raisons pour des personnes de quitter leur pays, et elles ne le font pas par plaisir, ça va de soi. Donc c'est ce qu'il faut quand même bien comprendre, parce que quand on nous dit invasion, enfin le langage évidemment de l'extrême droite, l'invasion étrangère, c'est vraiment tellement monstrueux comme terme. Ce sont des gens qui aimeraient rester dans leur pays, mais qui ne le peuvent pas, et qui donc doivent trouver un pays d'accueil. Et c'est ça qu'il faut, il faut aller vers le pays d'accueil, dans des conditions évidemment qui doivent répondre à un certain nombre de règles. Mais si on veut faire de la France une forteresse, c'est moralement... vraiment remettre en cause tout ce qui est notre République, notre démocratie et nos valeurs, et d'autre part, ce sera de toute façon inefficace. Sur ce dernier point, j'évoquerai quand même, le ministre de l'Intérieur nous dit les expulsés maintenant feront l'objet d'une expulsion effective, puisqu'aujourd'hui, quand il y a des obligations de quitter le territoire français, on sait que c'est à peu près exécuté à proportion de 10%, mais ça restera la même chose, tout simplement parce que il faut trouver le pays de renvoi qui accepte d'accueillir. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est largement démagogique, c'est pour céder aux pressions d'une partie de l'opinion publique manipulée par l'extrême droite, alors qu'il conviendrait de faire tout le contraire, de faire œuvre de pédagogie, d'accueil et de rester ce que nous devons être, c'est-à-dire une terre de fraternité.
Et justement, cet aspect répressif que vous déplorez, cela répond-il à une volonté qui serait grandissante, selon vous, de la part de la population française ou non?
Moi, je pense, si vous voulez, là-dessus, je me méfie beaucoup des caricatures, des grands mots et des, comment vous dire, des appréciations définitives. C'est comme lorsqu'on vous dit la France est raciste, la France est antisémite. Moi, je pense surtout que les opinions publiques, comment dire, se fabriquent aussi, enfin, elles dépendent beaucoup du politique, et la responsabilité du politique est énorme. Il est évident que si vous avez au quotidien des médias, des partis, des réseaux sociaux qui vous abreuvent de mentions erronées, de fake news, pour vous orienter vers le rejet de l'étranger, ça finit par convaincre malheureusement une partie de la population. Bon, il y a toujours eu, c'est pas nouveau, c'est vrai de tous les pays, il y a toujours un pourcentage de personnes qui sont fermées à la fraternité. C'est ainsi, ça, il faut le constater, mais c'est normalement une proportion minoritaire, très minoritaire. Et même cela, il faudrait essayer de les convaincre de changer d'avis. On fait tout l'inverse, on fait grossir ces rangs-là. Voilà, et moi je crois qu'il y a dans tout cela une très très large responsabilité, encore une fois, du pouvoir politique. Quand on voit le gouvernement actuel de plus en plus glisser vers la thématique de l'extrême droite à des fins purement électoralistes, qui d'ailleurs se révéleront par la suite certainement tout à fait fallacieuses, parce que l'idée c'est de dire on va aller aussi loin que l'extrême droite ou on va s'en approcher pour essayer de contrer l'extrême droite, c'est tout l'inverse. On est en train d'avaliser les idées de l'extrême droite et ça ne fait que prospérer l'extrême droite, c'est évident. On préfère toujours l'original à la copie, hein, c'est bien connu.
Est-il opportun, selon vous, d'examiner ce texte dans ce contexte international que chacun d'entre nous connaît, cette guerre entre Israël et le Hamas et ses répercussions ailleurs dans le monde?
Je dirais que tous les sujets deviennent interactifs et interliés, enfin liés. Donc c'est vrai que c'est pas le moment le plus opportun, hein. Ça je le et c'est le moment que choisit le pouvoir pour accélérer le processus de vote de cette loi. Alors en fait le motif de l'accélération, comme vous le savez, c'est surtout l'assassinat du professeur Dominique Bernard il y a quelques semaines qui a conduit Monsieur Darmanin et le gouvernement à accélérer. Donc c'est plus lié à cela qu'en lien direct avec le conflit du Proche-Orient, mais tout interagit et il faut faire preuve au contraire d'une extrême prudence dans le maniement des textes. Donc c'est pas le bon moment, ça c'est certain.
Le président de la Ligue des droits de l'homme, maître Patrick Baudouin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, est Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse, adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, déléguée d'Horizon dans cet arrondissement. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.